faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Amen. Nous avons prié pour la parole, mais je veux que nous prions encore. Nous pourrons être tous debout. Nous allons tous nous tenir debout. Et invoquer encore la grâce de Dieu. Pour que ce matin, il nous dise quelque chose. Pour que ce matin, il m'inspire. Que je parle selon lui. Nous sommes tous des auditeurs de sa parole, y compris moi. Nous ne détenons rien, tout vient de lui, il est notre force. Et nous voulons ce matin être à ses pieds pour recevoir ses consignes, ses conseils, et qu'il nous donne la force, parce qu'elle vient de lui, d'appliquer ces choses-là. Ensemble, élevons nos voix et prions notre Seigneur pour la parole. Que l'atmosphère de cette salle soit disposée pour cette présence divine. Et c'est l'enseignement de sa parole. Seigneur, merci parce que tu prends entièrement le contrôle. Merci parce que tu conduis toutes choses. Merci parce que tu m'inspires. Merci parce que tu disposes nos cœurs. Et tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est esprit étranger, tout ce qui est distraction, tout ce qui est rébellion, tout ce qui est résistance à ta parole, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est distraction, tout ce qui résiste à la parole de Dieu, soit révoqué loin de ce lieu, au nom de Jésus, par la puissance et l'autorité que Dieu te me donne. Je chasse de cette assemblée tout esprit de distraction, d'incompréhension, de rébellion, de résistance dans les cœurs. Je les réduis en miettes dans le nom de Jésus. Tout esprit mauvais, tout esprit méchant est chassé de cette salle au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence, merci parce que tu nous parles, tu nous enseignes, tu nous conduis. Sois glorifié Dieu des cieux, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons encore acclamer le Seigneur et nous rasseoir. Amen. 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 Je vous salue dans le nom de Jésus pour la suite de notre série sur donc l'amour qui est la plus puissante de toutes les vertus. L'amour est la vertu principale. Quand nous parlons d'amour, nous parlons de l'amour de Dieu, aimer Dieu, et l'amour du prochain, aimer les hommes. Amen. Voici les deux axes de notre enseignement. Pour le moment, nous n'avons pas encore véritablement abordé ces grands axes, c'est-à-dire comment aimer Dieu, et puis après, comment aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Ce qui sera peut-être un peu plus facile à comprendre, c'est l'amour pour Dieu. La deuxième partie que nous n'aborderons pas, c'est vrai, aujourd'hui, qui touchera l'amour du prochain, et c'est là qui quelquefois nous pose un peu le plus problème. Amen. Mais en fait, cette partie de l'enseignement nous pose problème simplement parce qu'on n'a pas bien compris aussi la première partie qui est comment aimer Dieu. Amen. Comment aimer Dieu. La Bible dit, si une personne n'aime pas son frère, cette personne-là n'aime pas aussi Dieu. Donc si nous arrivons à réaliser, à accomplir la première partie de cet enseignement, il sera facile pour nous d'aimer ceux que Dieu a créés. Alléluia. Alléluia. Dieu a créé des personnes, Dieu a créé des choses. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu détestes ses œuvres. Amen. Ce qu'il a créé. Alléluia. Alléluia. En vérité, on déteste les mauvaises actions. Mais on ne doit pas détester l'homme. Il y a une différence entre ce qu'un homme fait et ce qu'un homme est. Amen. Ce qu'il est. Alléluia. Le problème de la haine, du mépris ou du rejet de l'autre vient de ce que l'homme associe les mauvaises actions d'une personne à la personne même. Et pour nous, rejeter une mauvaise action doit coïncider avec le fait de rejeter la personne. Alléluia. Donc, si on voit quelqu'un qui a commis un vol, on n'aime pas le vol, mais en même temps, on n'aime pas le voleur. On n'apprécie pas les critiques. On n'aime pas être critiqué. On déteste les critiques, c'est bien. Mais c'est l'amalgame que nous faisons, c'est que celui qui a critiqué et la critique même, nous les associons. Et puis, nous rejetons l'ensemble. C'est ce qui nous amène à détester la créature de Dieu. Dieu n'a pas créé les critiques, Dieu a créé l'homme. Et l'homme a fait le choix, a pris des voies détournées, il a suivi les voies du diable. Si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, nous devons être capables de faire la différence et puis d'aller sauver par la grâce de Dieu les personnes qui ont adopté un chemin négatif. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors notre premier texte de ce jour est tout dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Cet enseignement va nous permettre vraiment dans ces moments où la Côte d'Ivoire passe par des temps difficiles, ces enseignements-là vont nous permettre de communiquer la vie de Dieu autour de nous. Nous ouvrons nos Bibles donc dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. Il est dit, passage que nous connaissons, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Verset 3, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Amen. Alors, je commente brièvement ces trois versets de 1 Corinthiens 13, ces trois premiers versets. Le Seigneur nous présente ici le fait que l'amour soit un élément essentiel dans la chrétienté. Amen. Les actions qu'il cite sont des actions que nous devons manifester en tant que croyants. Parce que je suis né de nouveau, je vais prier en langue. Quand je reçois le Saint-Esprit, je reçois le parler en langue. Et beaucoup parmi nous ont reçu le parler en langue, le don de prophétie et toutes ces choses. Mais Jésus dit que si je prie en langue, que je n'ai pas l'amour, ce que je fais n'est rien. Comme nous l'avons expliqué la dernière fois, cela signifie deux choses. Que il est possible d'avoir le don du Saint-Esprit, qu'on appelle le don de langue, sans pour autant avoir dans son cœur l'amour. Alléluia. Et Dieu dit, si tu te trouves dans ce cas-là, où tu manifestes les dons spirituels, et que tu n'as pas l'amour, tu ne manifestes pas l'amour de Dieu, les dons spirituels que tu manifestes sont vains. Amen. Il va dire, donc quand j'aurai la prophétie, il va dire par rapport à la même chose en ce qui concerne la prophétie. Autrement dit, une personne peut donner des prophéties précises, mais n'être rien devant Dieu parce qu'elle ne manifeste pas l'amour. Le fait qu'une personne prophétise avec précision ne signifie pas que Dieu est d'accord avec elle. Alléluia. Je reviens là-dessus parce que ces choses-là sont souvent pour nous des séductions. Lorsque nous nous sentons en train de manifester les dons spirituels et l'onction de Dieu, cela nous trompe en sens que ça nous fait dire que nous sommes agréables aux yeux de Dieu. Si je prie en langue avec autant de puissance, si c'est à moi que l'Éternel vient révéler les choses qui vont arriver, c'est que sûrement je suis sa fille, je suis son fils préféré. Si, en tant que pasteur, je donne des prophéties qui arrivent exactement, ça veut dire que sûrement, en Côte d'Ivoire ici ou dans le monde, je suis un des plus grands hommes de Dieu. 1 Corinthiens 13 dit, c'est faux. Que tu peux prophétiser. Et le verset ne dit pas que la prophétie est fausse. Il dit, si tu prophétises et que tu n'as pas l'amour, ça veut dire que c'est possible. Ce que tu fais est vain. Ça veut dire, vain, ça veut dire c'est de la vanité. Et on peut dire beaucoup de choses dans cette vanité. Premièrement, ça n'a pas de poids aux yeux de Dieu. Tu as été juste un instrument entre les mains de Dieu. Un peu comme l'âne qui a prophétisé du temps de Balaam. Dieu est passé par un âne pour dire la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que l'âne est un puissant serviteur de Dieu, agréable aux yeux de Dieu. Il reste, il demeure un âne. Donc, Dieu peut passer par toi. Un don spirituel n'est pas un mérite. Un don spirituel est justement et simplement un don. Tu ne peux pas frimer parce qu'on t'a fait un cadeau. Ça n'a pas de sens. On dit un don spirituel, le don de langue. Tu ne l'as pas acheté, on vient te faire un cadeau. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur à ceux à qui on n'a pas donné. Amen. Alléluia. Ce qui détermine ta capacité, c'est ce que toi-même tu as acquis par la force de ton travail. Mais ce qu'on t'a donné, tu t'es couché un matin, Dieu vient te donner un songe.
Et quand tu te lèves,
non, s'il me donne le songe, c'est que je suis trop en communion avec lui. Ça veut dire que je suis un grand serviteur de Dieu. Dieu ne donne pas les songes ou les prophéties par mérite. Il choisit la personne par laquelle il veut parler. Pour parler de l'avenir de l'Égypte, Dieu a donné des songes à Pharaon, mais Pharaon était un sorcier. Pour parler de l'avenir du monde, des prophéties, une grande prophétie qui a marqué l'humanité jusqu'à la fin du monde, de cette période jusqu'à la fin du monde, une des plus grandes prophéties de la Bible, c'est une prophétie qui a été reçue par un roi païen, Nebuchadnezzar. Il a vu une vision, il a vu une statue, et il a vu une pierre qui est venue frapper la statue. Et cette prophétie-là annonce la succession des royaumes jusqu'au retour de Jésus. C'est un roi idolâtre qui a reçu cette révélation. Et Daniel en a fait l'interprétation, mais ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas à Daniel que Dieu a donné cette révélation. C'est à Nebuchadnezzar, un sorcier. Nebuchadnezzar c'était des sorciers, c'était des chefs occultes. Mais le lui a donné. Vous voyez, en fait, 1 Corinthiens 13 nous explique, il ne faut pas nous séduire. Il ne faut pas que nous nous laissons séduire par nos capacités ou nos grâces spirituelles. Donc quand je prierai en langue, quand j'aurai le don de prophétie, il dit quand j'aurai la connaissance de tous les mystères, c'est-à-dire je suis un grand enseignant, j'ai la révélation de la parole de Dieu, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais est vain. Il va continuer en disant, quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela n'est rien. Qu'est-ce que ça signifie ? Tu peux être un grand donateur, quelqu'un qui fait beaucoup d'offrandes. Mais si tes offrandes ne sont pas faites avec amour, si ton don n'est pas manifesté avec l'amour, ce que tu fais est vain. C'est zéro. C'est multiplié par zéro. Ce n'est rien devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Tiens, voisin, est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu as, par ton offrande, tu as acheté tous les instruments que... ça a du poids. Dieu va regarder l'esprit avec lequel tu as acheté les instruments. S'il n'y a pas d'amour dans ce que tu as fait, c'est compté comme rien. Parce que très souvent, lorsqu'on fait quelque chose en amour, par exemple, si je donne beaucoup d'argent, tout simplement pour qu'on dise, voilà une femme, voilà un homme qui est bon, une femme qui est bonne. La Bible dit, si tu fais tes offrandes pour que les hommes t'apprécient, lorsqu'ils t'apprécient, c'est cela ta récompense. Parce que c'est ce que tu recherchais. Tu voulais que tout le monde dise vraiment, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'avenant, c'est quelqu'un qui aide. Tu dis, c'est ce que tu recherches, non? Et les gens te l'ont dit, on t'a acclamé, on a pris ta photo, on t'a pris pour parrainer les choses. On a dit, voilà, un grand donateur. C'est ce que tu cherches. Donc, ça n'a plus de poids au ciel. Quand tu vas arriver au ciel, tu dis, mais Seigneur, et les frères que j'ai aidés? Il dit, mais il t'a pas dit merci. C'est pas ce que tu cherchais. Tu dis, non, mais je pensais que ça allait m'aider au ciel. Tu dis, non, quand tu l'as fait, au fond de ton cœur, toute ta pensée était focalisé sur les honneurs que les hommes ou la considération qu'ils allaient avoir de toi après ton geste. C'est ce que tu as eu. Donc, tu as moissonné ce que tu as semé. Tu voulais les ovations, les acclamations, l'honneur, tu les as eues. Tu voulais être assis aux premières places, on t'a donné la première place. Tu voulais être considéré par les hommes t'ont considéré. Ce que tu as fait n'a plus de valeur ici. Amen. C'est pourquoi il dit, quand je irai jusqu'à donner tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais est vain. Alléluia. Alléluia. Il y a des dons qu'on fait pour manipuler les gens. Il y a des dons qu'on fait pour manipuler les gens. Ce n'est pas par altruisme. Quand vous voyez quelquefois les pays développés, les trucs comme ça, ils donnent l'argent. Ce n'est pas par compassion. C'est des calculs. Donc quand ils vont arriver au ciel, ne pensez pas que Dieu va dire, bon, vous là vraiment... vous êtes bien, vous avez aidé. Non, on vous donne. Mais on attend en retour des choses. On va prendre les marchés, on va prendre ceci, on va prendre cela. Ce n'est pas de l'amour, forcément. Il y a certains qui le font avec amour. Il y a des personnes qui donnent en Occident juste pour être exonérées de leurs impôts. Ce n'est pas de l'amour. Ils vont avoir leur récompense sur la terre. Mais lorsqu'ils arriveront au ciel, ça ne sera pas compté. Amen. Tu voulais donner pour qu'on t'exonère des taxes. On l'a fait. C'était ce que tu as eu. Tu voulais le faire pour disposer le cœur des personnes en ta faveur. Ça disposait leur cœur en ta faveur. Ça marchait. Gloire à Dieu. Ça s'arrête là. Amen. Quand je distribuerai donc tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais est vain. Amen. Je reviens là-dessus. Ce sont des choses que nous avons dites. Mais il est très important que nous comprenions que notre service à Dieu, doit être conduit par l'amour. S'il n'est pas conduit par l'amour, nous n'en tirerons rien. Nous ne tirerons rien de ce que nous sommes en train de faire. Si je prie et que je ne prie pas par amour, ma prière est vaine. Si je jeûne et que je ne jeûne pas par amour, mon jeûne est vain. Je suis chrétien, né de nouveau, mais je jeûne. Je jeûne quelque part pour que des personnes, pour qu'on me regarde un peu en disant, voilà, une femme de jeûne, un homme de jeûne. Si les frères t'ont félicité en disant, homme de jeûne, ton jeûne a eu sa récompense. C'est fini comme ça. Amen. Si tu prêches la parole de Dieu pour que les personnes te reconnaissent comme étant un grand prédicateur, lorsque les gens vont te noter comme étant un grand prédicateur, ça suffit comme ça. C'est tout ce que tu vas recevoir de la qualité de ta prédication. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser séduire par les choses qui frappent les yeux. Mais nous devons aller chercher le fond des choses. Nous devons contrôler, nous devons travailler l'esprit qui nous amène à faire les choses pour Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Et je crois que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui, en tout cas j'en connais, je crois, c'est Dieu qui connaît les cœurs, mais beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses avec un amour sincère. Amen. Et alors, il va après, dans la suite, et c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui, il va développer progressivement, donc, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, les caractéristiques, certaines caractéristiques de l'amour. Il va dire, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Donc, quelqu'un qui agit malhonnêtement n'a pas l'amour. Donc, si je... Comment je sais, comment je peux juger? C'est, est-ce que dans mes propos, je suis toujours honnête? Si j'ai une tendance à aller dans la malhonnêteté, dans les magouilles, dans la tricherie, ça signifie que je n'ai pas l'amour. Même si je fais beaucoup de dons à la population, parce qu'il y a la malhonnêteté en moi, ça signifie que je n'ai pas l'amour. C'est ce qu'un Corinthiens 13 dit. Il dit, l'amour est patient. Aujourd'hui, on est en train de parler de la patience. Alléluia. L'amour, c'est attendre. Lorsqu'on aime, on est patient. Si je suis naturellement, je suis toujours impatient, ça signifie que mon amour est bas. Mon amour est faible. Amen. Ce sont donc ces différents symptômes, ces différents signes qui peuvent me permettre de me juger et de jauger la manifestation de l'amour dans ma vie. La patience. Donc, plus je vais aimer, plus je serai patient. Patient dans ma relation avec Dieu, comme les frères l'ont montré tout à l'heure dans l'illustration de Judas. Ici, c'était la patience vis-à-vis de Dieu. On a prié, depuis là, Dieu tarde. Les frères rétrogradés, certains d'autres sont restés, ils ont été patients. Est-ce qu'on est patient dans les promesses de Dieu, dans ce que Dieu promet? Est-ce qu'on sait attendre? Amen. Aujourd'hui, tout va très vite. Donc, on a envie que Dieu aussi aille vite. On veut coloniser Dieu à la précipitation terrestre. Aujourd'hui, comme je le disais la dernière fois, l'homme, il fait tout d'un claquement de doigts. Auparavant, on avait plus de temps. Pour aller même, comme je dis, pour aller même mettre en marche la télévision, tu devais te lever, te déplacer, aller toucher. L'humanité a trouvé que tout ça, c'est une perte de temps. Tu restes assis dans ton divan, tu appuies un petit bouton, ta télé se met en marche, tu l'éteins. Avec un petit bouton, tu fais descendre les rideaux, tu fais monter, tu éclaires la... Tout. On veut gagner du temps. Les voitures vont vite. En fait, on est pressé. Et le monde en train de nous coloniser avec... l'impatience, la précipitation, et nous voulons amener ça chez Dieu. Donc, lorsqu'on a prié pour un sujet, Dieu a très peu de temps. S'il ne réagit pas vite, ça veut dire qu'il n'a pas écouté notre prière. Parce que s'il écoutait les prières, il allait réagir en même temps. Donc, s'il ne réagit pas en même temps, ça veut dire que nous ne sommes pas exaucés, ou Dieu n'est pas bien, en fait. Mais cela vient de l'éducation du monde. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas parce que les hommes vont de plus en plus vite que Dieu va changer. Dieu, il est serein. Tu vas te fâcher jusqu'à... Comme les frères, là. Ils sont rétrogradés, après ils sont revenus. Dans l'illustration tout à l'heure de Judas, Dieu est Dieu. Alléluia. Il dit à David, je te choisis comme roi. C'est 13 ans plus tard que David est monté au palais. Dieu. Il est calme et serein. Alléluia. Amen. Samuel est venu le oindre. Il avait 17 ans. Le jour où il s'est assis sur le trône, il avait 30 ans. 13 années plus tard.
si le journal dit, mais Dieu, n'as-tu pas dit, tu m'as ouin. Mais regarde, on est en train de me poursuivre ici, dans les forêts, dans les montagnes, je ne sais où aller. Lisez les psaumes. David même priait, dit, Dieu, je préfère mourir, c'est fatigant. Mais ce que Dieu a dit, il le fait. Amen. Alléluia. Et si vous développez votre amour, vous allez commencer à comprendre la façon dont Dieu fonctionne. Parce que Dieu même est amour. Vous allez développer la patience. Vous allez sentir tout le processus que Dieu met en place pour bâtir ce qu'il fait. Quand Dieu va bénir votre entreprise, il travaille avec la patience. Vous priez pour que ça marche. Quand vous priez, Dieu se met à exaucer votre prière. Mais il ne l'exauce pas pour que ça frappe les yeux des hommes. Il va travailler le fond, poser chaque élément. Pendant les 13 années, Dieu ne chômait pas. Dieu n'a pas attendu 30 ans. Et puis pour placer David, non, il a travaillé son caractère, il a travaillé son cœur. Il prenait le temps de faire le grand roi David que nous apprécions tous. Alléluia. Et lorsqu'il a fini, il dit, maintenant, avant je t'avais appelé, maintenant tu es un élu, tu es prêt. Amen. Amen. Dieu vous appelle avec une entreprise, il travaille. Et souvent nous abandonnons la main de Dieu parce que nous ne comprenons pas la patience de Dieu. Dieu est patient. L'amour, lorsque nous la développons, lorsque nous développons cette vertu, nous apprenons à vivre le caractère de Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Donc l'amour a toutes ses valeurs. L'amour est patient, l'amour n'envie pas, l'amour ne se vante pas, l'amour ne sent pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour n'est pas irritable. Quand vous développez votre amour, vous allez voir que vous êtes de moins en moins irritable. Les choses vous mettent de moins en moins en colère. C'est intéressant d'aimer. Amen. Si vous voulez contrôler vos émotions, votre irritabilité, développez votre amour. Si vous êtes susceptible, ça signifie tout simplement que votre amour est froid. Il faut le développer. Donc, n'essayez pas d'accuser les uns les autres en disant, si je réagis comme ceci, c'est à cause du frère X, c'est à cause de la sœur Y. Non. Si la sœur X, le frère Y, arrive à te créer à te mettre hors de toi, ce sont simplement des envoyés, entre guillemets, de Dieu pour te montrer que ton amour n'est pas encore au point. Amen. Donc, toutes les personnes qui arrivent à te micher, à te mettre en colère, ce sont tes amis. Va les voir. Dis vraiment, oh là là, sans toi, je n'aurais pas su. Amen. Quel était le niveau de mon amour? Amen. L'amour ne s'irrite pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que l'amour ne regarde pas toujours le mal d'une chose, dans une situation. Vous savez, dans tout ce qui arrive, il y a toujours un aspect négatif et un aspect positif. Dans une parole d'une personne, on peut, quand quelqu'un parle, on peut regarder, écouter ce qu'elle est en train de dire et puis dire, il a dit ça à cause d'une telle ou telle situation, mais qui est négative. Quelqu'un qui voit toujours un aspect négatif dans ce que les gens font et les gens disent, manque d'amour, n'aime pas. Lorsque l'amour est développé, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour cherche toujours ce qui est positif. C'est-à-dire, même si quelqu'un vient poser une action avec une arrière-pensée, l'amour va se focaliser sur l'action qui est positive et non pas l'arrière-pensée négative. L'amour va dire, le plus important, c'est qu'il a fait ça. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un vient te faire un don. Et puis, ton ami vient te dire, il ne faut pas considérer ça. Lui, là, il veut t'acheter. Il est dangereux. Ce n'est même pas un don qui vient de son cœur. Ce n'est pas que l'amour est naïf, non. Mais l'amour va considérer le geste. Il faut dire, c'est vrai, il a ses défauts, mais quand même, il a pensé à moi. Alléluia. 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 L'amour voit l'effort que les personnes font et non les choses qu'elles n'ont pas pu faire. L'amour regarde toujours ce que les autres ont fait et non pas ce qu'ils n'ont pas fait. L'amour ne dit pas, tu as vu, il ne m'a pas salué. L'amour va se souvenir, mais hier il m'a salué. Aujourd'hui il ne m'a pas salué, mais je ne vais pas m'attarder s'il ne m'a pas salué. Quand je vais voir le fait qu'il ne m'a pas salué ce jour au culte, l'amour va dire, il était trop pris. Il était tellement focalisé sur d'autres sujets, c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas salué. L'amour excuse tout. L'amour trouve une excuse. Amen. Si vous avez une tendance à voir, à soupçonner, vous dites, ah, si aujourd'hui le frère ne m'a pas salué, c'est que on est parti me critiquer. chez lui. Et vous aussi, vous devenez bizarre. Si vous agissez de la sorte, si c'est comme ça, vous agissez naturellement très souvent, vous devez comprendre que votre amour est froid et qu'il n'a pas la dimension que Dieu souhaite pour vous. Alors, quelles que soient vos aptitudes spirituelles, prier en langue, prophétie précise, parole de connaissance, toutes ces choses-là, si vous les manifestez, ne vous en contentez pas. Allez davantage rechercher l'amour. Travaillez votre amour. À un moment donné, vous allez vérifier, vous allez voir, vous ne soupçonnez plus le mal. Vous devenez de plus en plus patient. Vous savez attendre. Vous ne regardez pas le côté négatif des choses. Vous devenez de plus en plus honnête, droit, vrai envers les autres. Alléluia. Parce que vous avez toujours l'impression que faire une injustice, c'est faire du tort à une autre personne, même si elle en est inconsciente. Vous êtes conscient maintenant que la vie de l'autre est aussi importante que la vôtre. Et tout ce que vous le faites non seulement pour les autres, mais aussi pour vous. Tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, vous le faites aussi dans la vie des autres. Amen, amen. C'est quelqu'un avec moi. Gloire à Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 33. Luc, chapitre 6, deuxième verset du jour. Luc 6, 33. Il est dit, bon, je commence au verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. Ne jugez point et vous ne serez point jugé. Ne condamnez point et vous ne serez pas condamné. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. La Bible parle ici, donc, au verset 35, par exemple, la Bible dit que Dieu est bon même envers les ingrats. Ça veut dire ceux qui ne sont pas reconnaissants. Et Dieu dit que c'est comme cela que nous devons être. Dieu est bon. Lorsque la pluie tombe, elle tombe pour les méchants, les mauvais, les justes. Dieu est bon envers tout le monde. Savoir qu'on a vraiment de l'amour, qu'on a l'amour, qu'on développe l'amour, se vérifie surtout à la façon dont nous traitons ceux qui sont contre nous ou ceux qui nous font du mal. C'est ce que ce passage dit. Il dit, quel gré vous en saura-t-on si vous faites du bien à ceux qui vous font le bien? Si vous êtes convenant, si vous êtes convenable avec ceux qui sont convenables envers vous. Dimanche dernier, je l'ai dit et je le dis encore. Une jauge de l'amour, c'est votre réaction vis-à-vis de ceux que vous savez qui ne vous apprécient pas. Ou ceux que vous savez qui ont des mauvaises actions vis-à-vis de vous. Amen. La Bible dit, ce que vous devez faire, c'est que systématiquement, il faut leur faire du bien. Si je découvre, on va revenir là-dessus lorsque je parlerai de l'amour du prochain. Si j'apprends qu'une sœur, un frère m'en veut, je dois lui faire du bien. Amen. Alléluia. Je dois poser de bonnes actions dans sa vie. Amen. Je ne dois pas rester là, murmurer, me plaindre, m'asseoir avec les autres. Parce que ça aussi, les païens agissent pareillement. Tu ne fais rien d'extraordinaire. M'asseoir, me plaindre. Tu as vu celui-là, il est contre moi. Il me met des bâtons dans les roues. On est dans l'église ici. Moi, je fais ceci. Il embête mon service. Il fait ceci. Ton attitude, même si tu as raison, n'est pas selon Dieu. Amen. Dieu aurait voulu que tu aies une démarche de semence, de bonté vis-à-vis de la personne qui agit mal à ton endroit. C'est alors, dit le Seigneur, qu'on va te reconnaître vraiment comme fille et comme fils de Dieu. Dis Seigneur, fais croître ton amour en moi. Amen. Alors, on a vu la dernière fois que l'amour évolue de manière progressive. Si la Bible dit qu'en Matthieu 24, verset 11-12, il dit que l'amour va se refroidir, c'est-à-dire aussi que l'amour peut se réchauffer. Donc l'amour oxyde. Alléluia. On a aussi étudié que l'amour dont parle le Seigneur n'est pas d'abord un sentiment. Nous l'avons étudié dimanche dernier. Ce n'est pas d'abord un sentiment, mais l'amour dont parle le Seigneur est un commandement. Amen. Nous avons expliqué qu'il y a trois dimensions dans l'amour. Ces trois dimensions-là sont relatives à notre corps physique, à notre être entier. Nous appelons amour tout ce qui est attirance physique. Nous appelons amour aussi tout ce qui est attachement émotionnel. Mais ce que Dieu appelle amour, c'est ce qui se passe dans notre esprit. Amen. Et dimanche dernier, je l'ai bien expliqué. Au second culte, dimanche dernier, j'ai donné un exemple. Je dis l'attirance physique qu'on appelle amour, avec l'exemple de Amon, le fils de David, qui était attiré physiquement par sa sœur. La Bible appelle cette attirance de la convoitise. Ce n'est pas le vrai amour. Et cela, quelquefois dans notre cœur, nous l'interprétons comme étant l'amour. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Amon était attiré par sa sœur, il est allé jusqu'à la violer. Lorsqu'il a fini de le faire, il a fini par la détester. Et je vous ai dit ceci, que tout ce qui est attirance physique, qui peut venir par ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on touche, si vous vous attachez à cela, tout ce vers quoi vous êtes attiré physiquement, vous allez finir par le détester. Amen. Amen. Parce que la chair n'aime pas les excès. Quand la chair est attachée à une chose, elle en veut en abondance. Mais lorsqu'elle commence à consommer cette chose-là, elle la rejette après. Amon a fini par détester sa sœur Tamar après l'avoir violée. Et je vous ai dit ceci, un mariage qui est basé sur tout ce qui est physique ne peut pas demeurer longtemps. C'est-à-dire, si tu es tombé amoureux de ce monsieur à cause de sa façon de parler, de se vêtir, de son visage, si tu es tombé amoureux de cette fille à cause de sa forme, ton mariage ne va pas tenir longtemps. Peut-être que tu vas garder le couple, mais à un moment donné, tu en auras marre. Tu dis vraiment, si la Bible pouvait autoriser la séparation, je m'en serais séparé. Mais à cause des Écritures, je vais rester. Vous voyez? Et très souvent, ce sont des unions qui sont nées de la convoitise de la chair. Ici, par exemple, peut-être plusieurs parmi nous aiment la glace. Aiment les glaces. Hein? Les cornets, les glaces, c'est bon. Mais vous ne pouvez pas les prendre excessivement. Parce que si vous les prenez en excès, elles vont vous dégoûter. C'est pas vrai? Toi, tu aimes quel parfum? Vanille. Bon. Mais tu ne peux pas manger les glaces vanille tout le temps. Amen. Alors j'ai donné cet exemple, je dis ceci, je reviens là-dessus parce que ça nous aide à mieux comprendre ce dont je veux parler. Donc, les choses vers lesquelles notre chair est profondément attirée, on ne peut pas les faire excessivement. Amen. Alléluia. Lorsque tu les consommes, ça te fait du bien, mais tu dois les consommer avec modération. Si tu fais un excès de glace vanille, tu manges 5 glaces vanille matin, 5 à midi. Le soir, si on te présente même la glace vanille, tu peux gifler la personne qui t'amène ça. Tu dis, je ne veux pas voir. Voilà. Et j'ai dit que pourtant, la chair est comme ça. Elle rejette tout ce qui est excessif. Et malgré tout, il y a des repas que nous mangeons régulièrement sans que nous les rejetions. Ce sont très souvent nos plats traditionnels. N'est-ce pas? Hein? Nos plats traditionnels, ça veut dire les plats qu'on mange depuis notre enfance. Ces repas-là nous dégoûtent difficilement. C'est-à-dire, on en mange matin, midi, soir. Par exemple, il y a des personnes, tous les jours, elles doivent manger le foutou, leur foutou. Tu ne peux pas. Donc, ce que je dis concernant la glace n'est pas vrai concernant leur foutou. Certaines personnes, c'est les riz avec une certaine sauce. Tous les jours, riz, sauce, graines, il y en a d'autres, le garba, leur a checké, il ne faut pas t'amuser. Tous les jours, ils doivent se faire leur garba. Il n'y a pas d'excès avec le garba. Okay. Alors, j'ai expliqué ceci. Pourquoi il y a certains mets qui ne nous dégoûtent pas? Et il y en a d'autres que nous apprécions, mais qui finissent par nous dégoûter. J'ai dit ceci, c'est simplement parce que les nourritures que nous aimons sans les rejeter, comme je dis souvent, ce sont des nourritures traditionnelles. Ça veut dire, on a commencé à les consommer avant même d'en avoir envie. Depuis que tu es petit, tes parents te font manger, pas par désir, mais par la loi. Alléluia. À peine tu as tes premières dents, petit, on fait des trucs, mange. Et puis, tu nais et tu t'habitues à cela. Et à un moment donné, c'est dans ta coutume. C'est ainsi que si vous rentrez chez les uns les autres, vous pouvez savoir à peu près de quelle région ils viennent par rapport au repas qu'ils consomment tout le temps. Au Congo, c'est quoi? Kwanga et puis Pondou. En tout cas, moi, je vais souvent prêcher chez les pasteurs congolais. À la maison, il y a toujours un repas. Il y a riz avec haricots et puis une sauce feuille. Là. C'est ça le Pondou, là, non? Avec, ça ne manque jamais. Voilà. Nous, on peut aimer ces repas, mais on ne peut pas en faire un excès. On peut de temps en temps aller goûter le repas béninois. Mais si on en mange tous les jours, non, ça ne peut pas aller. Mais eux, ils en mangent tous les jours parce que ça fait partie de leur éducation. Alors, j'ai dit quoi? Dieu veut qu'on ait des désirs. L'attirance physique n'est pas négative. Il faut seulement qu'elle soit contrôlée. L'attachement émotionnel n'est pas négatif. Les différents amours qu'on appelle Eros, Philéo, c'est Dieu aussi qui les a créés. Mais Dieu ne veut pas que notre vie soit conduite par ces sentiments-là. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ton corps est attiré vers la glace que tu dois tout en prendre. Ce n'est pas parce que ton corps est attiré vers une personne que tu dois aller forcément lui faire des avances. Le sentiment naît pour une raison ou pour une autre. Mais ce qu'il faut, c'est contrôler. Comment est-ce qu'on amène un enfant à désirer toujours une chose? Depuis qu'il est petit, on lui donne la loi. Mange ça tous les jours. Amen. Tout ce qui est nourriture, repas, mais que vous choisissez plus tard, à l'âge adulte, par des désirs, vous ne pouvez pas les prendre en excès. Amen. Mais ce que vous faites tous les jours depuis étant petit par rapport à la loi, vous finissez par les faire avec amour. Lorsque un Béninois mange sa coutume béninoise, il est content, il est tranquille, il est bien. Amen. Il le fait avec plaisir. Mais ce n'est pas le plaisir qui l'a amené à choisir ce repas. On lui a fait choisir le repas avant que le plaisir naisse. Vous me suivez? On n'a pas attendu qu'il ait envie. On lui a donné cela avant même qu'il ait envie. Et après, il a fini par avoir envie. C'est comme ça l'amour fonctionne. Si je dois aimer, même envers mon ennemi, quand même avoir de la considération pour mon ennemi, si je veux avoir de la compassion, parce que la compassion pour un ennemi, c'est émotionnel. C'est-à-dire, quand je le vois, j'éprouve quelque chose pour lui. Il m'a fait du mal, mais quand même, je sens dans mon cœur que je l'aime. Ça, c'est de la compassion. Comment est-ce que mon âme peut-elle avoir de la compassion pour quelqu'un qui a passé son temps à vouloir me détruire? Pourquoi est-ce que Dieu demande cela? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais pour y arriver, il ne faut pas d'abord commencer à chercher à avoir de la compassion pour lui. Ça ne commence pas comme ça. Il faut d'abord t'appliquer une loi. Quelque chose que tu dois faire régulièrement, sans sentiment, sans sensation. Et à force de faire cette chose, quelque chose va se produire. C'est que le sentiment va venir après. L'attachement va venir après. Mais il ne vient pas avant. Amen, amen. Alléluia. Si quelqu'un avec moi, il peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons introduire et commencer les 5 choix à prendre pour aimer Dieu. Il ne faut pas commencer par ressentir, mais il faut commencer par agir avant de ressentir. Il ne faut pas ressentir avant d'agir, mais il faut agir avant de ressentir. Amen, amen, amen. Quelles sont les 5 actions que je dois faire pour me dire que j'aime Dieu? On va faire simplement une action aujourd'hui. Donc, pour aimer mon prochain comme moi-même, pour aimer mes ennemis, pour aimer les autres, je dois d'abord commencer par aimer Dieu. Si je n'aime pas Dieu, je ne pourrai pas aimer les autres. Et si je n'aime pas les hommes, ça signifie que je n'aime pas Dieu. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que tous les hommes ont été créés par Dieu. Et je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas les personnes qu'il a créées. Aimer Dieu, c'est un ensemble de décisions. Si je prends ces décisions, plus tard, je vais avoir les sentiments. Je dois prendre des décisions. Et il y en a 5 que j'ai pu répertorier. 5. La première de ces décisions, ou je dirais le premier des choix, donc j'ai dit 5 choix à faire pour manifester l'amour de Dieu. Le premier, c'est choisir de servir Dieu. Je pourrais dire choisissez de servir Dieu. Dis à un voisin, choisis de servir Dieu. Josué
chapitre 24, verset 15. Josué, le chapitre 24, verset 15. Il est dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il est dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Amen. Dans ces deux passages, le Seigneur nous fait ressortir la notion du choix. Dis avec moi le choix. Le choix. Pour pouvoir aimer Dieu, il est important de prendre votre responsabilité. Choisir, c'est être responsable. Amen. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot le choix. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne choisissaient rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas de choix. Et beaucoup de personnes ne font pas de choix parce qu'ils ont peur de se tromper. C'est-à-dire, ils sont partout à la fois. On dit ça, c'est bon, ça, c'est-à-dire qu'ils sont là en même temps. On dit, mon frère, si on dit que voilà la vérité, et j'ai remarqué ça à l'église, quand par exemple je pose une question entre oui et non, je dis, qui croit que c'est ça qui est la vérité? Il y en a qui lèvent les mains. Qui croit que ce n'est pas la vérité? Il y en a qui lèvent les mains. Et il y a toujours le plus grand homme qui ne lève la main ni dans l'un ni dans l'autre. Parce que tout simplement, ils attendent ma réponse. Avant de dire, oui, c'est ce à quoi je pensais. Oui. Non. Dis à un voisin, fais un choix. Le fait de ne pas faire des choix dans la vie semble être une facilité. Mais je vous assure que c'est une manière pour le diable de vous maintenir esclave. Un esclave n'a pas le choix. Il fait ce que son patron décide. Vous avez le choix. Deutéronome 30 dit, Dieu dit à tout homme, je t'ai donné la capacité et la possibilité de choisir. Tu dois faire un choix en tout. Tu dois choisir. Tu dois choisir tes actions. Tu dois faire un choix. Tu dois choisir où tu veux aller. Tu dois choisir qui tu veux servir. Il y a beaucoup d'entre nous qui font les choses parce que les parents ont fait, parce que c'est la coutume, parce que le monde fait comme ça. Et ça nous amène à toujours trouver des excuses. On dit, mais pourquoi tu te retrouves ici? Hé, je n'ai pas fait exprès. J'étais là par hasard. Gasparien est venu me parler, il m'entraînait là et nous sommes arrivés là. Non. Tu seras jugé, mon frère, pour tes actes. Alors, choisis au moins tes propres actions, de sorte que le jour où on va te juger, tu les assumes. Parce que même si quelqu'un t'a entraîné à faire le mal, on va te juger pour le mal. Or, en fait, tu n'avais pas bien choisi. Toi-même, tu ne voulais pas trop faire le mal. Mais, comme il était là et c'était la jeunesse, tu as fait involontairement. Ce n'est pas ce qu'on va retenir à la fin. Quand même, tu as fait. Alors, c'est la raison pour laquelle tu dois toi-même être responsable de tes démarches, de tes choix, de tes actions. Josué dit ceci au peuple, il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu m'a dit d'insister là-dessus parce que beaucoup de gens n'ont jamais fait le choix clair de servir Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église parce que c'est un phénomène de mode. Parce que ça fait bien, ça fait dire, il n'y a pas un moment donné, ils ont regardé le diable et puis Dieu. Puis on dit, bon, voilà Satan avec toutes ses caractéristiques. Voilà Dieu, moi et ma maison, nous décidons de servir Dieu. Les hommes se laissent très souvent aller dans des phénomènes, d'ensemble. Mais Dieu veut que l'homme ait le choix. Tiens avec moi le choix. Même ton humeur le matin à ton réveil, c'est ton choix. Tu décides d'être de mauvaise humeur ou tu décides d'être de bonne humeur. Tu as le choix. Les agressions, les oppressions, les mauvaises choses existeront toujours. Mais c'est toi qui dois choisir ta réaction. Est-ce que tu décides ce matin d'être en colère ou d'être dans la joie? Tu dois faire un choix. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis le bien afin que tu vives. Mais une chose que Dieu fait, Dieu donne aux hommes le choix. Une chose que le diable fait, c'est qu'il évite que les gens aient la liberté de choisir. On dit, tout le monde a fait ça, depuis le truc, alors toi fais. Et tout le monde suit comme ça. Oh. On dit, pourquoi tu vas à l'église? Hein, depuis mes aïeuls, de mes aïeuls, de mes aïeuls, nous tous on va. Pourquoi tu fais ça? Non. Fais ton choix. Fais un choix. Juge. Tu ne peux pas juger parfaitement, mais juge avec Dieu. Dis, Dieu, aide-moi. Regarde et puis choisis. Si tu décides de marcher avec Dieu, alors marche sincèrement avec Dieu. L'amour de Dieu commence là, par un choix. Si tu veux être païen, sois païen en même temps. C'est un choix. Assume. Parce que de toute façon, quand tu vas arriver au ciel, il n'y aura pas de... C'est pourquoi ils disent, quand un chrétien est hypocrite dans l'église, c'est pas bien. Parce que, je ne sais pas si c'est Dieu, tu veux blaguer. Tu fais un genre de semblant. Mais tu n'es pas bien païen, tu n'es pas aussi bien chrétien. En espérant qu'au dernier jour, si on dit que le ciel, le paradis existe, hop, tu as gagné. Mais si on dit que le paradis n'existe pas, hop, tu n'as pas perdu. Pendant que tu es sur la terre, tu as vécu aussi. Voilà. Dans les deux cas, tu gagnes. Donc, parce que les chrétiens, ce qu'ils disent là, personne n'a jamais vu le ciel. Ça veut dire quoi? Donc, si je meurs comme ça, il y a trop de bonnes choses sur la terre que je n'aurais pas goûté. Donc, je vais patinante les deux. Un peu païen, 4 mois un peu païen, 4 mois chrétien, 4 mois païen où j'ai des copines, après 4 mois je me sanctifie, je reviens. Je ne fais pas de choix. Dis voisin, fais un choix. Fais un choix. Fais un choix. Observe beaucoup de choses que tu fais dans ta vie. Et puis pose-toi la question, est-ce que les actes que tu poses sont le fruit d'un choix ou sont le fruit d'une certaine imposition par les hommes ou par un système? Est-ce que tu as pris le temps d'analyser ce que tu es en train de faire? La foi chrétienne que tu manifestes, tu es en église, est-ce que tu as choisi? Sincèrement. Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Amen. Amen. Moi, j'ai décidé de servir Dieu. C'est-à-dire, j'ai pris cette décision. J'ai regardé le monde. J'ai vu les plaisirs qu'il y avait là-dedans. J'ai vu la possibilité, quand tu triches, d'avoir de l'argent. J'ai vu ça. J'ai vu toutes les belles filles du monde. Et j'ai fait un choix. J'ai décidé, par exemple, d'être fidèle. J'ai choisi d'être fidèle. C'est un choix. J'ai choisi de n'être qu'avec ma femme. C'est un choix. Vous savez qu'il y en a qui n'ont jamais fait ce choix? Ils sont mariés, mais ils se disent qu'être fidèle, là, ça vient naturellement. Ça ne vient pas naturellement. Ça ne vient pas naturellement. Hein? Ça ne vient pas naturellement. Être fidèle, ce n'est pas naturel. La chair de l'homme a envie de regarder les belles filles du quartier. Hein? Ce n'est pas naturel. La chair, ce n'est pas naturel. C'est un choix. C'est un choix. Vous savez, tu regardes, tu dis, bon, ok, tu t'es marié. Vous savez que beaucoup de gens ne choisissent pas. C'est-à-dire qu'ils se marient, c'est du folklore en fait devant les mères. Hein. Jure fidélité. Mais lui-même là, il sait que bon, ça veut dire, je te serai fidèle tant que la tentation ne sera pas trop forte. Si c'est trop fort, franchement, Dieu même comprendra. En réalité, si ces personnes se jugent intérieurement, elles n'ont jamais fait clairement le choix de la fidélité. L'honnêteté est un choix. Décider d'être honnête, c'est un choix. L'honnêteté est facile, c'est naturel. Mais à devant des pressions de la vie, si vous n'avez pas clairement choisi d'être honnête, vous allez glisser. Donc, si vous n'établissez pas une ligne de démarcation entre le bien et le mal, si vous ne faites pas de choix clair de votre réaction dans telle ou telle circonstance, vous allez agir selon votre chair. Amen. Amen. Il y a des choix que moi je suis en train de, sur lesquels je suis en train de travailler. Par exemple, un des nouveaux choix sur lequel je m'améliore, au feu tricolore. Enfin, chez moi, là, il y a une route, il y a une voie qui est gâtée. Donc, j'arrive, je ne fais pas bien le tour du rond-point. Je casse dans un raccourci pour éviter les fossés là. Et puis un policier, une femme policier m'a arrêté. Elle m'a arrêté.
Et puis j'ai payé l'amende. Et puis j'ai ri avec elle. Je dis, oh, moi, je suis pasteur. Sans... J'ai parlé avec elle. Ah, je suis pasteur, tout ça. Mais pendant que je dis, je suis pasteur, j'ai eu honte. Non, j'ai eu sérieusement honte. Et je dis, et puis en fait, c'est comme je dis, il dit, tu vois que, est-ce que tu sais que tu n'as jamais choisi de respecter le feu? Je dis, comment? Il dit, non, tu te dis que c'est automatique. Tu t'arrêtes au feu rouge parce que c'est automatique, c'est une éducation. Mais, comme c'est naturel, si l'opportunité, il n'y a pas de voiture, tu vas passer. Mais quand quelque chose a un choix, même quand tu es tenté, parce que tu as décidé à un moment donné de toujours respecter, tu le fais. En fait, quand vous ne choisissez pas, vous agissez par rapport aux autres et par rapport aux circonstances. Mais quand vous faites un choix, quelles que soient les circonstances, quels que soient les changements, c'est une décision propre à votre vie. Et je... Alléluia. Amen. Donc maintenant, j'ai choisi de respecter le code de la route sérieusement. J'ai choisi. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de choix. Je subissais le code. S'il n'y a pas de policier, je regarde. Ah, je suis pressé. Seigneur, dans la vie, dans la foi, il faut... Maintenant même, la nuit, il n'y a pas de voiture. On dit que c'est dangereux. J'ai dit j'ai choisi. Il y a toujours des conséquences pour le choix. Mes amis, je m'arrête au feu. Les gens viennent klaxonner. Pom, pom. J'ai fait un choix. Dis à un voisin, fais un choix. Alléluia. Dans la vie, il faut faire des choix. J'ai vu qu'il faut regarder chaque sujet. Il faut faire un choix. Il faut faire le choix de ce que sera votre réaction. De sorte que c'est vous qui agissez. De sorte que vous ne subissez pas les événements. Et vous devez aussi faire le choix de servir Dieu. La première décision, c'est regarder tout ce que le monde propose. Et de regarder Dieu, qui a des fois des restrictions. Et puis, vous regardez les conséquences de chacune des choses. Le mal produit la mort. La vie, la communion avec Dieu produit la vie. Étudiez à fond et puis faites un choix. Moi, je vous exhorte à choisir Dieu. Ça donne la paix, ça donne la joie, ça donne l'amour. Comme j'ai choisi Dieu, je choisis de respecter ce qu'il m'a dit. J'ai fait un choix. Si je n'avais pas fait de choix, j'allais marcher clopin, clopin. Amen. Première décision, premier choix à faire, pour aimer Dieu, il faut être libre et puis choisir de le servir. C'est un choix délibéré. C'est vous-même que vous êtes assis, vous avez réfléchi et vous avez décidé de le faire. As-tu déjà choisi de servir Dieu? Ou tu es venu à l'église parce que ça te plaît? Parce que tout se passait bien. Tu arrives à Vase d'honneur, c'est bien organisé. Alors, tu es venu juste pour un plaisir. Ce n'est pas ça, aimer Dieu. Ça fait plusieurs mois que tu viens comme ça à l'église. Mais maintenant, fais un choix. Après tout ce que tu as vu, décides-tu de rester dans la maison de Dieu, de le servir ou d'être au milieu? Fais un choix. Amen. Assume ce que tu fais. Sois responsable des actes que tu poses parce que tu as fait un choix. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce jour. Amen. Alléluia. Nous allons prier. C'est vrai, il ne faut pas se précipiter pour faire les choix. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il faut prendre le temps de voir quelles sont les choses et quelles sont les conséquences des choix. Tu ne peux pas le connaître parfaitement. Mais au moins, avec l'analyse et la prière et l'aide de Dieu, tu vas voir et alors tu vas décider ce que tu veux faire. Tu vas décider, tu vas choisir et non pas subir. Car tu vas assumer tes choix, tu seras responsable de tes décisions. Seigneur Dieu, apprends-nous à aimer. Tu nous as montré en ce jour l'importance de l'amour. Comment l'amour est important, Seigneur Dieu, dans notre vie? Parce que tu es amour et nous sommes connectés à toi. Et tu nous montres, Seigneur Dieu, que pour t'aimer, il faut faire le choix de te servir. Il faut décider de te servir. Béni sois-tu, Dieu des cieux. Si quelqu'un dans cette salle a été touché par cette parole et il voudrait vraiment que Dieu l'aide à ce niveau, qu'il se tienne debout. Je veux prier pour lui. Je veux prier pour cette personne. Je veux prier pour elle. Tu vas mettre une main sur ton cœur et le Dieu vivant, le Dieu puissant va t'aider. Lève l'autre main. Tu mets une main sur le cœur, tu lèves l'autre main. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je prie pour chacun d'entre nous. Donne-nous en ce jour de nous mettre sur le chemin, la quête véritable de l'amour vrai.
de l'amour duquel nous sommes issus en tant qu'hommes, car nous sommes issus de ton amour. Apprends-nous à le vivre et à le manifester pleinement. Nous savons que ce n'est pas facile, mais Seigneur, aujourd'hui tu nous as encore parlé du choix, de regarder et de choisir. Oh Seigneur, donne-nous de faire le bon choix, le choix de la vie. Ton choix, Seigneur. Apprends-nous à analyser et à faire un choix. Béni sois-tu, Dieu vivant. Merci parce que ton amour progresse en nous. Tu vas nous apprendre à aimer, même lorsque nous sommes haïs, à faire du bien, même lorsque nous sommes rejetés. Seigneur, éduque-nous. Seigneur, forme-nous. Seigneur, construis-nous pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur pour tes enfants. C'est dans ton saint nom que je les bénis et que je prie pour leur vie. C'est toi Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Merci parce que tu crées cette disposition en eux et tu les rends capables de mener cela à bien au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur. You came from-